Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI en cette fin d'après-midi où nous vous parlerons d'une vieille dame qui trébuche et Turin tremble. Le FC Porto hier dominait largement la Juventus. Cette défaite des Bianconeri est-elle comparable à celle des Blaugrana la veille face au PSG ? En Espagne, le FC Séville, dominé par le BVB, un Dortmund plus à l'aise en Ligue des Champions qu'en Bundesliga. Des jaunes et noirs guidés par leur attaquant norvégien, l'intenable Erling Haaland. Des huitièmes de finale sans Messi ni Cristiano Ronaldo, peut-être, mais en tout cas avec Mbappé et Haaland. La relève est peut-être sous nos yeux. Enfin, l'OM qui gagne. L'OM gagne en championnat. Est-ce le fruit de la méthode de l'humble Nasser Larguet ? C'est une question qu'on va avoir le plaisir de poser à Marc Libra. Bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Ça va mieux ?
Ah ben je viens que pour l'OM, autrement je...
Sinon voilà, vous n'êtes pas là.
Ah, quand ils perdent, vous ne m'appelez pas, hein, s'il vous plaît.
Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien ?
Très bien. Bah, s'il faut venir quand l'OM ne perd pas, on ne viendra pas souvent. Hein. C'est une saison un peu mythique, mais
il est méchant,
hein. Ouais, mais ça, on connaît la denture de Nabil. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous tous, c'était un plaisir d'être là. On m'appelle quand le Bayern gagne, donc je suis tout le temps là.
Ah, mais aujourd'hui, ils ne sont pas au programme encore.
C'est
Bayern.
Pas grave.
Mais ils gagnent quand même quand ils ne sont pas.
Ils gagnent quand même. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti. Et Radio Foot commence en Afrique aujourd'hui. Nous allons évoquer la FEGAFOOT, la Fédération Gabonaise de Football, qui est furieuse. L'affaire de la nuit gambienne ne passe décidément pas. Souvenez-vous, cette nuit passée par les panthères, couchées à même le sol de l'aéroport de la capitale, la veille d'un match comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN. C'était à Banjul le 16 novembre dernier. Les réseaux sociaux avaient relayé. Vous vous en souvenez sans doute, vous les avez peut-être vus d'ailleurs, ces photos de cette nuit honteuse. Et la CAF s'était alors saisie du dossier pour finir par infliger une simple, on va dire, sanction financière. C'était 100 000 $ à la Fédération gambienne, mais une partie est en sursis de cette somme à payer. Alors que la CAF avait aussi par ailleurs puni Pierre-Emerick Aubameyang qui critiquait l'inaction de la CAF qui avait été bien sûr appelée à la rescousse à travers les réseaux sociaux et je crois même à travers le téléphone. Alors la FEGAFOOT avait fait appel, elle a été déboutée comme en témoigne le verdict notifié hier par la CAF, mais cela ne calme pas les Gabonais ni leur colère. Et nous allons en parler tout de suite avec Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon. Bonjour Patrice Neveu.
Bonjour Henri.
Merci beaucoup d'être en direct dans Radio Foot International. Ma question va être assez directe et simple. Votre fédération ne veut pas apparemment se contenter de ces sanctions financières jugées trop laxistes et même pas d'ailleurs de la réponse qu'elle a eue à son appel.
Non, tout à fait, mais je dirais que c'est pas de la colère, c'est une réaction logique par rapport à ce que l'équipe nationale a subi de la part de la Fédération gambienne. Et n'étant pas satisfait, je dirais, des dispositions prises par la CAF, il est bien logique de mener la juridiction devant le TAS, puisque la CAF s'est positionnée avec une simple amende.
Qu'est-ce qui vous satisferait comme sanction ?
La sanction doit être sportive. Maintenant, c'était à la CAF ou ce sera au TAS de le définir. En sachant que pour participer à un match de football, les joueurs de haut niveau doivent être dans les meilleures conditions possibles. C'est avoir un minimum de sommeil, un physique correctement préparé. Et puis un mental aussi qui n'est pas été amputé. Les deux ont été amputés volontairement par les dirigeants de la Fédération gambienne. Donc il s'avère de prendre des décisions qui s'incombe.
Patrice Neveu, effectivement, dans votre effectif, vous avez des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe, et notamment, on pense à Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que vous redoutez, par exemple, qu'un club comme Arsenal, en voyant ça, en lisant cela, eh bien, n'ait plus trop envie de céder son joueur, alors qu'il reste encore deux matchs de qualification ?
Bien évidemment, mais c'est vrai pour le Gabon et c'est vrai pour toutes les nations africaines, parce que la fédération qui reçoit son joueur lors des matchs de sélection doit être en mesure, je dirais, de mettre son joueur dans les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau des hôtels ou autres, et encore plus au niveau de sa sécurité physique et mentale. Donc notre problème s'étend à toutes les fédérations africaines, dans la mesure où les grands clubs européens n'ont aujourd'hui plus l'assurance que leurs joueurs sont logiquement protégés et bien traités lors des déplacements. Quoi.
Est-ce que, selon vous aussi, cette simple sanction financière est presque un appel à reproduire ce genre d'incident et finalement, pour une fédération, bien de s'en servir un peu comme une arme par rapport au match du lendemain, on va dire ?
Bah, c'est évident. En termes juridiques, on appelle ça de la jurisprudence. Et là, il y a jurisprudence. Si c'est une autre fédération, il y a trois fédérations, quatre fédérations lors des prochains matchs qui font la même chose, d'accord ? Qu'est-ce que la CAF va pouvoir faire la même sanction ? Donc c'est la porte ouverte à des choses qui sont inadmissibles dans le monde du football.
Patrice Neveu, en plus, il reste, hein, je le disais, des matchs de qualification pour la CAN 2022. Vous êtes dans le groupe D. La Gambie ? Peut-être, mais est première de ce groupe à égalité de points avec vous. Il reste deux matchs importants. Vous allez recevoir les Congolais de RDC. Il y aura ensuite ce match en Angola. Et vous êtes deuxième du groupe, mais la RDC n'est pas loin. Est-ce que vous avez aussi peur pour la qualification de l'équipe ?
Non, ça c'est tout autre chose. Les matchs qui arrivent, on va les jouer. Et puis on sait qu'on a les armes, je dirais, pour se qualifier. Si on nous donne la possibilité de nous préparer, je dirais sérieusement, avec la totalité de notre effectif. On le sait, en plus, la tendance aujourd'hui est à se dire « oui, mais ça s'est déjà fait plusieurs fois en Afrique, on connaît ». Non, relevons un peu, je dirais, la valeur de ce beau continent, et ça ne s'est jamais fait. Nous sommes en période de Covid où il y a des morts dans le monde entier, et ce qui s'est passé avec notre équipe n'a jamais été, c'est jamais reproduit où que ce soit. Donc voilà, je veux dire, on ne peut pas obliger les gens à porter des masques ci et ça, et du côté du football, ne pas prendre en compte, je dirais, des tests PCR qui étaient totalement valables, et puis faire coucher des joueurs au sol à respirer la poussière. C'est pas logique, et je pense que là, je vous dis, il y aura jurisprudence, et qu'aujourd'hui, les clubs... je pense que la FIFA, lorsqu'elle va être saisie du dossier, aura une toute autre position, parce que c'est pas possible que ce soit ainsi.
Vous allez donc saisir le tribunal arbitral du sport.
C'est mon président de fédération, M. Pierre-Alain Mundingui, qui est face à la situation avec le ministre des Sports. Et logiquement, Dieu sait si mon président est quelqu'un d'extrêmement fair-play, c'est un ancien arbitre international. Mais là, je peux vous dire qu'il a vécu la scène avec nous. Et en toute logique, il va porter le dossier devant le TAS.
Oui, on se
souvient. On espère qu'on aura, gain de cause. Parce que, aussi, les gens ont tendance à banaliser l'affaire, quoi. C'est quelque chose de grave.
Oui, on se souvient très bien des images et comment elles nous avaient surprises, pour ne pas dire choquées. Hervé Penaud ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec certaines méthodes qu'on a connues à une certaine époque. Et effectivement, dire « Ah ben, on a connu ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, non, c'est terminé ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'ère du professionnalisme. Effectivement, ouais. Il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs et ça peut impacter énormément. Mais en dehors de ça, même qu'ils jouent dans des grands ou des petits clubs, il y a un règlement. Il y a un moment, il faut être respectueux de ce qui doit se faire. Là, on verra ce que ça donnera devant le TAS. Mais toujours est-il que je trouve que c'est pas bête de ne pas abandonner le combat, parce qu'à un moment, il faut aller au bout des choses. Et puis surtout, il faut que ça faut
c'est dommage d'en arriver jusqu'au TAS, Hervé.
Ah, très dommage.
Et c'est
très,
ça
très
que
dommage.
Moi, je déplore dans cette histoire. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut pas laisser passer, mais le signal, il doit venir d'en haut. Et il doit pas seulement venir avec des sélections nationales comme la Gambie, si ça doit être le cas, mais aussi avec les gros, quoi, entre guillemets, si je puis me permettre. Moi, je me souviens, et voilà, alors je ne veux pas dire que je presse pour ma paroisse ou ma mosquée, si je puis me permettre, quand le bus de l'Algérie se fait caillasser en 2010, par exemple, par les Égyptiens, même si c'était en dehors du stade, il n'y a eu aucune sanction à l'égard de la fédération égyptienne.
C'est plus difficile quand c'est en dehors du stade, hein, parce que là, c'est plus compliqué de gérer des
situations. Ouais,
mais enfin, on est quand même arrivé à zéro sanction, quoi. Ce qui est quand même.
Et après, des exemples comme ça,
on peut en trouver pléthore. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement que la Gambie soit sanctionnée si elle doit être sanctionnée, mais c'est aussi quand c'est des pays importants et des poids lourds du continent. Et le jour où on les sanctionnera, eux, et ben d'autres feront moins les malins.
Et là, ça fera jurisprudence.
Ouais, il faut juste pas oublier que bon, la Gambie avait quand même une ligne de défense. Hein.
Enfin, la Gambie, ils ont pourri tout le monde. Là. Ouais. Toutes les équipes qui sont venues en Gambie, elles se sont fait pourrir. Les Algériens, ils sont restés dans les vestiaires pendant 30 minutes dans un climat d'insécurité.
Il n'y avait pas eu un début de match.
Voilà, il y a eu d'autres équipes également. Donc,
mais eux, leur ligne de défense,
ils n'ont pas le monopole de la médiocrité.
Eux, leur ligne de défense, c'était de dire qu'en gros, les Gabonais n'avaient pas fait les examens qui convenaient et sont arrivés trop tard. Enfin, donc, mais à un moment, on respecte quand même l'adversaire.
T'es pas obligé de laisser des gens dans un aéroport pendant 6 heures.
C'est pas pour ça. Non, mais j'explique les deux.
Non, mais il peut y avoir de la bienveillance et de l'hospitalité. On rappelle quand même que c'est du sport, hein, c'est pas la guerre. Hein.
Je veux dire, si vous permettez,
par rapport au test PCR, c'est ni plus ni moins que vous arrivez avec un passeport valable, puisque c'était le passeport pour passer, médical pour passer, et on vous dit votre passeport n'est pas bon. C'est pas logique, quoi, je veux dire. Un passeport, c'est un passeport. Ouais. Et là, il y a violation grave des droits et de tout ce qu'on peut imaginer autour.
Et Annie, ça va soulever aussi un problème, et Hervé le sait, dans les semaines à venir, et même par rapport aux compétitions continentales, il y en a qui vont tricher sur les tests.
On a quand même vécu
au Cameroun, où on a eu des interrogations très bizarres.
Vous connaissez l'histoire des Maliens en Namibie, quoi. Ils font des tests, quasiment personne n'est positif, ils arrivent, la moitié de l'équipe est positif avec des joueurs bien ciblés. Ouais. Et ça, c'est une menace importante.
Et l'équipe Florent du Congo, au Cameroun, lors du CHAN, où lui a fait une conférence de presse assez incroyable en expliquant justement cette situation, en disant que pour lui, il avait même pris des médicaments, c'était pas normal qu'on lui ait fait ce traitement-là, alors qu'il était négatif. Donc ça peut entraîner effectivement des problèmes.
Et ben, c'est très important et on suivra l'affaire et le dossier avec vous, Patrice Neveu, et avec la Fédération. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été en direct dans Radio Foot International. Et bon courage,
merci
à bientôt. Merci.
À bientôt.
Ben nous, on va continuer et on va parler des matchs qui ont eu lieu hier soir. Ces matchs, c'était de la Ligue des Champions.
È iniziata da pochi secondi. Attenzione, l'errore della Juventus e la rete del Porto. La rete del Porto dopo pochi secondi di gioco. In area di rigore la conclusione.
Ma qu'est-ce qu'ils ont? Les joueurs du FC Porto et la Juve est encore prise à froid.
Alors c'est incroyable.
Massimo Orlando, incredibile.
Eh sì.
Incredible, c'était la 115e victoire du FC Porto en Ligue des Champions. Battre la Juventus au Estadio do Dragão a permis hier soir au club portugais de devancer le Benfica Lisbonne qui jusque-là distançait les autres clubs portugais. Une victoire inattendue peut-être, en tout cas on a vu le fantôme de Cristiano Ronaldo sur la pelouse alors que le Malien Moussa Marega se distinguait et marquait même l'un des deux buts de Porto. Alors certes, le FC Porto, deuxième de son championnat, est moins prestigieux que le FC Barcelone. Mais pourtant, est-ce que Nabil Djellit, à l'image un peu de Cristiano Ronaldo fantomatique, vous avez trouvé que la Juventus était dépassée dans le match hier soir?
Cette Juventus a été insipide face au FC Porto, qu'on sous-estime toujours un petit peu avant chaque match, chaque compétition.
Je sais que vous nous parlez souvent de Corona, notamment, n'est-ce pas?
J'adore. Hein, quel joueur, le Mexicain, extrêmement talentueux, encore tenté des choses assez incroyables. Mm-hmm. Mais il y a de la vitesse, il y a de la jeunesse devant FC Porto.
Contre Marseille, n'est-ce pas?
Je ne me rappelle pas, je ne connais pas.
Ils ont joué Marseille, je ne me dis rien.
Non, ça fait longtemps.
Non, mais la Juve, elle a l'image de ce qu'elle est actuellement dans son championnat. Elle n'est pas souveraine,
voilà,
tout
c'est
simplement.
Ça,
elle est, c'est une équipe qui est en...
Elle est plus infaillible.
Je ne sais pas si elle est en difficulté, mais en tout cas, elle a moins de marge collective. Il y a plein d'explications possibles. La pyramide des âges, des défenseurs et des milieux, surtout des défenseurs beaucoup plus âgés, qui accompagnent plus difficilement leur milieu de terrain. Elle est aussi elle est construite sur le talent de Cristiano Ronaldo. Seulement, et aujourd'hui, on sait que ça suffit plus forcément de jouer sur un seul joueur. On le voit de plus en plus. Ils ont besoin d'un collectif beaucoup plus dynamique. Et puis, et des idées de jeu que Pirlo a du mal pour l'instant à installer, puisqu'il a, en cours de saison, il a changé déjà plusieurs fois de schéma, par exemple. Vous voyez, il a fait, là, hier, c'était du 4-4-2. Il est passé par le 3-5-2. Donc, on sent encore qu'il cherche. Alors, effectivement, on lui fait son procès. Et ça, c'est une toute autre question, Annie.
Eh ben justement, on va l'écouter, Andrea Pirlo, parce qu'on avait aussi l'impression, en écoutant les explications à la défaite, que, qu'il y avait une certaine, comment dirais-je, quelques hésitations peut-être ou des explications un peu courtes.
On a commis une erreur en essayant de construire depuis la défense, mais sans certains joueurs, c'est inutile de tenter de jouer avec des longs ballons. Je pense que ressortir le ballon proprement de derrière est un avantage si on y parvient. Donc, on continuera de le faire. Une erreur ne peut pas tout remettre en question.
Alors, certes, une erreur ne remet pas tout en question, mais est-ce que, Hervé, vous êtes d'accord avec Nabil sur peut-être cette... on sait, hein, Pirlo, c'est sa première année comme entraîneur et il est quand même à la tête d'une grosse équipe dont on exige une régularité chaque année. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est peut-être du côté de Pirlo, hein? Il a été évidemment critiqué hier soir en Italie.
Bah, je pense que c'est souvent d'abord du côté des joueurs. Mais ça, c'est mon raisonnement, parce qu'en général, ce sont les joueurs qui jouent plus que l'entraîneur. Mais l'entraîneur est évidemment capital. Le problème de Pirlo, c'est que c'est un jeune entraîneur. Il n'était pas du tout destiné à avoir l'équipe 1. On lui a donné, parce qu'il n'y avait plus d'argent, on dit bah, finalement, tu dois prendre la B, tu vas venir prendre la A. Et il s'est retrouvé dans la situation de Sarri. Sarri, l'année dernière, qui est un excellent entraîneur. Personne ne nie la connaissance du football de Sarri. Mais le problème, c'est que c'est une équipe qui doit gagner, donc qui continue à gagner. Donc les résultats sont capitaux, évidemment. Mais à côté de ça, dans un système de jeu, il faut intégrer des éléments importants, mais qui sont aujourd'hui un petit peu vieillissants. Alors on pense à Ronaldo, qui va vous mettre quand même, je ne sais pas combien de buts dans la saison. Donc c'est un joueur capital et important. Mais d'un autre côté, ça modifie la structure de votre jeu. Et bien là, il se retrouve lui-même dans une situation un peu compliquée d'avoir à gérer des Chiellini. Alors Bonucci n'était pas là, mais Chiellini vieillissant, Ronaldo vieillissant, etc. etc.
Et puis il y avait des blessés importants, enfin, ou des absents plutôt importants. Hier, on pense à Dybala, le Colombien aussi. Qui
était
Quadrado, qui est un très bon joueur.
Très bon joueur. Il faut arriver à trouver un amalgame. Et puis surtout, lui, il débute sa carrière d'entraîneur. Donc à un moment, quand vous devez trouver des solutions, quelqu'un qui a connu beaucoup de situations, il peut plus facilement, ben lui, il se retrouve aujourd'hui un petit peu, j'allais dire, démuni. Parce que ce qui est très drôle avec le match d'hier, entre guillemets, c'est qu'autant ils ont été catastrophiques pendant 85 minutes quasiment. Bon, ils mettent un but, un beau but, et ils ont un pénalty. Parce qu'à mon avis, il y a pénalty sur l'action. Oui.
L'événement, c'est qu'on leur siffle plus les pénaltys quand même. Ça, il faut le dire.
C'est qu'ils peuvent s'en sortir avec 2-2. Ils peuvent s'en sortir à 2-2 en étant à la rue totale.
Exactement.
Je ne les imagine pas plus mauvais au retour.
Marc, vous aussi, pour vous, vous acceptez qu'on dise que c'est surtout les joueurs qui ont perdu hier plus que Pirlo?
Mais pour moi, à 90%, les joueurs sont toujours les premiers fautifs, qu'on le veuille ou non. Moi, j'ai connu des entraîneurs. Si vous avez envie de vous bouger pour l'entraîneur, vous bougez. Vous n'avez pas envie, vous ne bougez pas. Moi, je vais faire le parallèle par rapport à Barcelone. On a Gérard Piqué qui a envie de jouer, donc il joue. Qu'est-ce que fait Coman? Hier soir, Chiellini ne doit pas jouer. Il est blessé. Alors pourquoi il joue? Donc, à un moment donné, je veux bien. Alors, c'est-à-dire que c'est juste que l'entraîneur, à un moment donné, il est tellement faible. Quand je dis faible, c'est qu'il se sent tellement en difficulté en se disant, pas difficulté qu'ils vont le virer, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, Chiellini, c'est un patron. Piqué, c'est un patron. Mais physiquement, aujourd'hui, face à des joueurs qui sont à 90 ou 95%, le Chiellini ou le Piqué, il ne peut plus rien faire. Vous avez vu l'image de Piqué.
Piqué, d'ailleurs, c'est Piqué.
Elle est terrible, l'image, quand il veut l'attraper, mais pendant tout le match. Donc, là, aujourd'hui. Mais encore une fois, où je reviens, c'est que la Juve, sur 5 minutes, c'est un grand d'Europe, ils sont capables, et pour moi, il y a pénalty, il doit y avoir 2-2. Ouais. Et pendant 85 minutes, à Porto, oh, mais c'est magnifique, ouais, c'est super. Par contre, ils vous ont montré que, en étant très mauvais, un Ronaldo, il peut vous faire très très mal. Exactement. Donc, en fait, pour le match retour, ils vous font bien comprendre, oui. Ah, mais on est peut-être présent pour le match. Parce que ce fameux but, ils l'ont mis, ce but.
Bien sûr.
Donc, 1-0 au match retour, peut-être qu'il y aura autre chose.
Après, ça marchera pas à tous les coups, parce que si contre Porto, tu peux t'en tirer bon an mal an. À un moment, si l'altitude elle augmente et tu présentes quand même les mêmes failles,
mais ils changeront le curseur. Il va changer pour eux.
Je leur souhaite, mais sur cette saison, c'est pas forcément ce qu'ils ont montré. Mais t'as raison. Ouais. Ils sont pragmatiques. Il faut surtout pas les enterrer.
Ils sont la Juve.
Voilà, il faut surtout pas les enterrer. Maintenant, on peut pas dire qu'on est impressionné.
Mais c'est sûr. Ce qui est étonnant dans le discours de Pirlo là, c'est qu'il dit ce que je peux comprendre. Et puis c'est la grande mode aujourd'hui. Il faut toujours relancer par l'arrière. Mais quand vous êtes autant en difficulté, vous avez un gardien qui a du mal à faire une passe à 4 par l'arrière. Eh ben exactement. À un moment,
on en a vu d'autres être en difficulté.
Et là hier, ce qui était incroyable, c'est que d'une certaine manière, les joueurs de Porto n'avaient plus qu'à jouer sur la faute de l'adversaire. Donc quand vous jouez sur la faute de l'adversaire,
d'ailleurs, Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto, c'est très intéressant. Sergio Conceição Deschamps le dit après le match. Il dit, on avait bien étudié, on avait vu que certains joueurs sur la relance n'étaient pas tout à fait, et ils en ont profité dans les premières secondes. Mais... Marc, tout à l'heure, vous faisiez ce parallèle qu'on avait envie de faire, effectivement. Est-ce que ces deux clubs mythiques que sont la Juve et le Barça, alors évidemment, les conditions ne sont pas du tout pareilles. Il y en a un qui joue à domicile, si tant est que ça ait encore un sens aujourd'hui. Mais le Camp Nou, la Juve était à l'extérieur. Le Porto n'est pas le PSG non plus. Malgré tout, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre en Ligue des Champions, la faillite de ces deux clubs? Est-ce qu'il y a des parallèles? Par exemple, le vieillissement des équipes? Par exemple, un manque de ressorts, finalement?
Le manque de ressorts, c'est que d'un côté ou de l'autre, on s'est peut-être manqué sur certains recrutements à la Juventus. Mm-hmm. Certains joueurs ne sont plus forcément au niveau. Côté Barcelone, que ça soit Piqué, soit Busquets devant la défense, c'est dépassé, c'est très très dur. Donc ils sont, pour moi, un nouvel ère où ils vont devoir, parce que depuis le dernier titre, c'est 2015 en Ligue des Champions, Xavi, Iniesta, qu'on n'a jamais remplacé
dans les deux clubs.
Suarez, que l'année dernière on ne conserve pas, qui aujourd'hui fait les beaux jours à l'Atlético et qui marque des buts. Parce que quand ils sont à zéro, le ballon qui passe devant le but, ou même en fin de match, le ballon qui passe, Suarez, il va se jeter. Quand Dembélé a cette occasion à la 28e qui donne le ballon, Dembélé, il ne marque pas selon Messi. Peut-être que Suarez, il marque, ça fait 2-0, on parle autrement de Paris. Mais à l'arrivée, ces équipes-là n'arrivent plus à faire la différence. Et d'un côté, on a Messi qui a du mal aussi tout seul, et Ronaldo qui a du mal tout seul, mais qui sont capables, sur des coups d'éclat, de faire la différence. Mais aujourd'hui, il va falloir quand même changer beaucoup de choses dans ces clubs-là.
Autour d'eux, surtout. Ouais. Nabil, vous êtes aussi sur ce parallèle? Il y a des choses en commun?
Entre Messi et Ronaldo, là?
Non, pas encore.
D'une certaine manière, oui.
Le Barça et la Juve, qui, les deux, ont des étoiles palissantes, disons, dans ce huitième de finale.
Oui, alors le cas du Barça est plus grave, je pense, quand même. Parce que la Juve, mine de rien, ils sont toujours en course. Mais la Juve, ils ont déjà entamé leur processus de reconstruction. Ils ont rajeuni, mine de rien, on parlait un peu de ceux qui étaient vieillissants, mais il y a des jeunes joueurs qui ont commencé à intégrer cette équipe et qui seront certainement les leaders demain. Je sais pas, Rabiot, McKenny, De Chiesa également, qui a été hier buteur. Non, mais le Barça, c'est la fin de l'Empire romain d'Orient ou d'Occident, quoi. Je veux dire, c'est daté, là. La date est tombée, c'est terminé. Je veux dire, c'est une équipe qui est finie.
Ils ont quelque chose en commun, quand même. Ouais. C'est qu'ils ont d'énormes problèmes financiers, les deux clubs.
Ouais.
Et ça, ça change tout. Parce qu'à un moment, vous faites comment? À partir du moment où la Juve a décidé de prendre Ronaldo, qui paye une fortune, alors qu'ils avaient, eux, une grille salariale qui dépassait pas 5-6 millions d'euros pour les joueurs, et ben là, vous explosez tout. Alors, ça a été intéressant pour eux, parce qu'effectivement, pour l'impact publicitaire, vous êtes la Juve, mais ça, c'est important, ça a beaucoup mal fonctionné. Mais depuis qu'il est là, ben, évidemment, les résultats sont un petit peu moins bons, d'une certaine manière. Alors,
ils ont été champions d'Italie.
Champion d'Italie, mais quand même, avec une certaine logique.
Mais lui, il a une forme de logique. Il fait les stats. Après, tu as raison, c'est sur l'équilibre et le système de jeu.
C'est sur l'équilibre.
Et le fait que d'autres sont peut-être inhibés par sa présence. Dybala, qu'on n'a pas vu. Dybala, alors attention, s'il récupère quand même des joueurs, comme vous avez raison, Annie, comme Dybala ou Cuadrado, ça a une autre gueule quand même, si je peux me permettre.
Tandis
que Barça, bon, là, franchement, c'est une ambulance.
Et puis la grande différence, comme tu dis, c'est une ambulance, mais c'est pas une ambulance cette année. Regardez les résultats du Barça. Prenez des claques par la Roma,
Bayern.
Ils en ont pris combien?
8.
Voilà. Là, ils en prennent 4.
Par Liverpool,
ils explosent. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été corrigés à peu près partout en Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pour ça d'ailleurs que Messi voulait partir, parce qu'il sentait bien, il est intelligent, il comprend le football, il avait compris qu'à un moment, avec ce Barcelone-là, il pourrait pas s'en sortir. Et c'est pour ça aussi qu'il a envie de partir.
Tu sais où? Parce que tout le monde se demande, Hervé, si vraiment t'as l'info, c'est maintenant.
Oui, bon, bah, je vais le dévoiler.
Alors, il ira.
La dernière fois que je l'ai eu, il m'a dit j'aime bien Miami.
D'accord.
Mais enfin, je m'avance, on est aujourd'hui, le combien? On est
le 18 février.
Le 18 février. En plus, mais peut-être que la semaine prochaine, il va m'appeler, il aura un autre. Parce que c'est quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Hein.
Mais il n'a aucun vice pour aller à Miami. Donc
en tout cas, à noter la prestation de Adrien Rabiot hier, qui fait la passe décisive sur ce but qui sauve un peu les meubles et peut-être la qualification en quart de finale.
Il faut rester prudent. C'est vrai que les éléments, là, vous avez donné notamment l'absence de joueurs importants, fait que cette Juve, elle a limité la casse, et Hervé a raison. Si en étant mauvais, elle perd que d'un but,
elle est un peu meilleure, elle ne doit pas s'en sortir.
En Andalousie, il y a aussi eu des buts, plein de buts, et les visiteurs de Dortmund ont infligé au FC Séville une défaite inattendue.
Apprécie Erling Haaland! Oh, le phénomène! Erling Haaland a encore frappé! Et il vient marquer le deuxième but du Borussia, Erling Haaland! Marco Reus qui va servir Erling Haaland! Il est phénoménal! C'est un monstre et une contre-attaque encore éclair de la part du Borussia. Allons pour la punition, une fois de plus.
Erling Haaland, guck dir den Strahl an. Erling Haaland, olé.
Strahl.
Die Leute wollen Tore sehen. Der Haaland, der sagt gern geschehen. Ein Hattrick für die Galerie. One, two, three. Für Dortmund-Fans ist sonnenklar. Der Haaland bleibt für immer da. Als Prämie gibt's ein Bobby-Car.
Les louanges de Haaland chantées en allemand.
D'accord.
Une belle chanson, bien belles paroles.
Ben, on n'est pas très germanophone dans ce studio et dans notre équipe. Mais bon, c'est Laurent Salerno.
Ah, ich bin ein Berliner.
Ça, on a, oui, ça, là, vous avez comprenez. Raison. Une défaite inattendue donc pour Séville, je le disais, mais car les hommes de Julen Lopetegui restaient sur 7 matchs sans encaisser de but et sur 9 victoires consécutives, notamment, on les a vus en championnat. Et puis, ils ont donc pris 3 buts pour le FC Séville hier soir. La bête noire, ou la bête jaune et noire, c'était Erling Haaland, un doublé et une passe décisive. Le BVB plus à l'aise en Ligue des Champions qu'en Bundesliga, c'est ce qu'on peut en c'est déduire, Marc?
Oui, c'est vrai. Après, on peut se dire aussi.
Ils ont du mal, hein, en championnat allemand.
Oui, c'est plus difficile en championnat allemand depuis le départ de leur coach. On pensait qu'il allait se passer un.
Lucien Favre.
Ouais, ça se passe pas.
Juste avant Noël.
Et du côté de Séville, c'est bizarre, c'est que je pense qu'ils sont trompés de coup parce que c'est vraiment la Ligue Europa qui est très important. Et je pense que le cut au niveau de la Ligue des Champions, qui n'est pas forcément habitué, ils ont toujours du mal. Mais après, pour revenir sur Haaland, c'est voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, il est vraiment très impressionnant. Il va très très vite. Pourtant, il fait un 94, il doit faire 100 kilos. Et il va très vite, il est inarrêtable. Et je crois que, vous allez me confirmer, messieurs, mais je crois qu'il a une clause en plus qui est à 75 millions, il me semble.
Oui, elle n'est pas très élevée.
Elle n'est pas énorme pas quand on voit. Non, parce que quand on parle d'Mbappé, on va partir sur des sommes.
On va y venir à ce duo tout
voilà.
à l'heure. Mais effectivement.
Okay.
Ce duo ou ce duel, Annie?
ça sera à l'appréciation de nos auditeurs. Nabil, oui. Ce match hier, parce qu'on connaît, voilà, et on connaît le FC Séville en plus très généreux hein, sur la pelouse, très généreux en compétition européenne, eux, les spécialistes de la Ligue Europa. Là, ils sont en Ligue des Champions. Alors, malheureusement, il y avait une absence importante là aussi. Peut-être c'était celle de Lucas Ocampos. Hein. On sait que c'est l'homme qui marque des buts et qui a son importance, mais ils ont Papu Gomez.
Oui, Papu Gomez, bon, qui vient d'arriver. Alors, lui, voilà, il est dans un autre registre que Lucas Ocampos, qui a un impact player. Bah, c'était un match ouvert, très sincèrement. Moi, je m'attendais à avoir plutôt Séville devant parce que c'est une équipe qui est remarquable depuis qu'elle a remporté la Ligue Europa. Une équipe cohérente, une équipe qui joue bien au football. Temps. On les a vus aussi surclasser le FC Barcelone récemment sans leur mettre la piquette.
De zéro en coupe, c'est ça, ouais.
Sans leur mettre la même piquette que le Paris Saint-Germain. Mais en face, il y a beaucoup de verticalité. Et puis, il y a ce garçon qui est une locomotive incroyable, qui est Haaland. Mais je ne dis pas que Séville va se qualifier, mais je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait le miroir de ce match-là au retour parce que ça va rester assez ouvert. C'est deux équipes qui aiment jouer. Dortmund a quand même des faiblesses derrière, laisse des espaces, laisse des possibilités. Et peut-être que Lopetegui, qui est un excellent coach, qui lui a trouvé enfin un club à sa dimension, c'est qu'il est passé par le Real, ça s'est pas forcément bien passé. Peut-être que Séville est capable de mettre en difficulté Dortmund, parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a un nivellement, on sait même plus si on joue vraiment à domicile ou pas,
oui.
Sans l'apport du
Exactement.
Public. Voilà, et puis nous, du côté ici de RFI, bon, on peut quand même souligner qu'il y a quelques Africains à Séville, et notamment des Marocains. Qui tourne bien, donc ça pourrait être aussi sympa de voir Séville continuer l'aventure.
Hervé, tout est possible au match retour avec un 3-2 à l'extérieur.
Ça va pas être facile.
C'est combien le pourcentage de chance ?
Ce sera dur quand même parce qu'on a l'impression qu'il y a un côté machine hein, dans l'équipe de Dortmund. Mais c'est vrai qu'il a tout à fait raison, Nabil.
95% de chance, de se qualifier quand on a gagné 3-2 à l'extérieur. Mais c'est effectivement des statistiques qui datent du monde d'avant.
L'histoire de jouer à huis clos, ça change effectivement beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on l'avait vu en Coupe de France, où il y a eu quasiment que des victoires à l'extérieur. Donc, à un moment, effectivement, l'avantage étant réduit par le fait de jouer à domicile, un contre... Un Nesseri qui vient piquer un ballon et qui marque. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut provoquer un peu le doute. Maintenant, il faut quand même être logique. Aujourd'hui, on a la sensation que Dortmund est armé pour aller un peu plus loin. Et puis, c'est vrai qu'on
C'est une équipe un peu irrégulière, un
très
peu
irrégulière.
Instable.
En championnat, si on juge que sur le championnat, tout est possible.
Mais c'est peut-être l'occasion de compenser aussi.
Non, puis en plus, c'est peut-être l'occasion aussi pour certains de vivre une dernière aventure sous le maillot de Dortmund également. Il y a plusieurs joueurs qui.
Haaland.
Écoutons-le justement, l'entraîneur de cette équipe de Dortmund, parler de ce joueur. Selon lui, évidemment, il faut faire au mieux pour ce joueur débarqué il y a à peine un an du côté de Dortmund.
Il fallait mettre Erling dans les meilleures dispositions lorsque nous procédions en contre-attaque. Cela a très bien fonctionné, il a été récompensé avec 2 buts. Mais je suis encore plus fier du travail qu'il a fourni pour l'équipe et de l'abnégation dont il a fait preuve pour conserver le ballon. C'est incroyable qu'il ait encore marqué 2 buts. Il a livré exactement la performance dont l'équipe avait besoin. C'était un exploit collectif et Erling y a contribué.
Marc Libra, vous qui aussi étiez dans ce registre de buteur, hein, vous ne faites pas 1m94 et 100 kilos.
Pas loin. Aujourd'hui, peut-être. Ah oui. Non, 120 kilos. 120
Marc, kilos. Marc qu'est-ce que vous appréciez? Évidemment, l'entraîneur veut mettre son joueur dans les meilleures conditions. Il y est dans les meilleures conditions à Lens ou il n'a même pas besoin d'y être?
Ah non, il est dans les meilleures conditions. On va se rappeler qu'à Marseille, dans les années 90, on a Jean-Pierre Papin, Rudy Voleur, Alain Bocchi, Cascarino, c'est des joueurs qu'on met en situation pour marquer des buts et on s'appuie sur eux et ça fonctionne parce qu'ils sont chaque fois meilleurs buteurs. Allant dans ce dispositif-là, on le voit hier soir, c'est poussez-vous, je passe. Personne ne se met devant. Non, mais c'est clair et net. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs sur les côtés et puis dans l'axe, vous inquiétez pas, je suis capable de le faire, je pars de 30-35 mètres. Aidez-moi, donne-moi un soutien, je rentre et je marque et je chavire le gardien de but.
Il vous impressionne ce joueur?
Ouais, il est très impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, c'est la carcasse, la masse. C'est-à-dire que. Il est très rapide, il va très très vite. Et on se dit, normalement, quand on est grand, on est un petit peu... Moi, j'étais rapide après 10-12 mètres. Mes premiers pas étaient difficiles parce que grands appuis, alors qu'un petit joueur d'un 75-80, c'est petits appuis. Là, lui, dès le départ, il prend le dessus sur tout le monde. Et après, la différence, c'est que je pense qu'il a encore pris du muscle, mais au niveau, on ne peut pas le bouger. On n'arrive pas à le bouger. Et ça, eh ben, quand vous avez des défenseurs importants, quand vous allez vous heurter à Van Dijk en Espagne, en Angleterre, des joueurs, des défenseurs où il faut aller, c'est Ruben Diaz à City. Et je pense qu'il y a un beau duel avec les deux. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un joueur très impressionnant. Et heureusement que quand on a un joueur comme ça, on joue pour lui.
Alors justement, parlons-en et de Erling Haaland et aussi évidemment de Kylian Mbappé. L'un a eu 9 après son triplé du Camp Nou. Voilà, ça revient.
Il n'y avait personne au stade, c'est bizarre.
Ouais, hein. Vous savez, Annie...
94 000 places vides. Ouais. Et donc, Haaland a été noté 8 après sa prestation du côté de Séville. Il a d'ailleurs lui aussi les honneurs de la presse sportive et des premières pages. Cet attaquant norvégien de 20 ans, il a inscrit 8 buts en 5 matchs de Ligue des Champions et un total de 18 buts en 13 matchs cette saison. Écoutons ce mariage forcé... mariage signé Laurent Salerno entre Haaland et Mbappé.
Kylian Mbappé, troisième but, 1-2-3 buts de Kylian Mbappé qui a crucifié Ter Stegen.
J'adore la Ligue des Champions. Quand j'ai vu Mbappé faire un trick hier, cela m'a motivé. C'était une super soirée.
Vous n'êtes pas content ? Triplé.
C'est drôle.
Ouais, c'était une vieille interview de Kylian Mbappé, retrouvée par David Finzel. Haaland Mbappé, est-ce que pour vous, c'est la relève, alors duel duo, ça c'est à voir, mais des superstars du foot qui, peut-être d'ailleurs, ne seront pas en huitième de finale, enfin après les huitièmes de finale de Ligue des Champions.
Ah si,
Messi,
Mbappé, il y sera.
Peut-être pas. Non, mais je parlais de Messi et de Cristiano Ronaldo.
Ah oui, il y a pas la relève
peut-être
est là.
Pas. Est-ce que c'est la relève Haaland Mbappé pour le spectacle, pour le statut de star?
Ah bah absolument. Là aujourd'hui, alors il y a quelques, ils sont pas les seuls. Hein, il y en a pas que deux. Hein. Et puis même des joueurs un peu plus âgés. On parlait de certains joueurs âgés, par exemple Kevin De Bruyne qui doit avoir 27-28 ans. Moi, ça reste encore. Il y a encore des joueurs derrière Messi et Ronaldo et qui sont pas si vieux que ça. Mais parmi les jeunes, très jeunes, évidemment, ce sont les deux têtes de pont.
Les 20 et 22 ans. Hein.
Allez, les 20 et 22 ans sont les deux têtes de pont.
Je rajouterais Rashford si vous n'êtes pas obligé d'être d'accord.
Hein. Ouais, non, je ne serais pas d'accord. Mais non, Rashford, c'est un joueur très intéressant qui va vite, qui n'a pas de limite. Mais là, on est sur un niveau de performance qui est encore plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes qui s'appuient sur ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Dortmund, c'est Haaland. Vous avez le Paris Saint-Germain, c'est Neymar, évidemment. Mais là, comme il n'était pas là, c'était Mbappé. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà atteint un niveau de performance. Le regard des autres sur ces deux joueurs-là, ce qui n'est pas le cas de Rashford, par exemple, est proprement le regard de gens stupéfaits.
Hein, rappelons-nous Pelé lors de la Coupe du Monde, qui avait déjà tweeté en disant mais c'est qui celui-là ? Il avait fait des trucs, il avait 18 ans. Et Haaland, c'est pareil. Depuis qu'il arrive à Dortmund, on le regarde tous et tout le monde est
ébahi. Et même à Salzbourg, déjà, on l'avait repéré.
Mais bien sûr.
À Salzbourg, il était rentré de pied avec des champions.
En Ligue des Champions, il marquait but sur but. Et donc, à un moment, on pouvait se dire vous êtes à Salzbourg, vous êtes moins attendu, c'est un petit peu plus facile, entre guillemets. Vous arrivez à Dortmund, ça y est, maintenant vous êtes dans un grand club. Et c'est pareil, il fait exactement la même chose. Alors après, qui vous préférez ? Ça, c'est encore un grand débat.
Et c'est pas exactement les mêmes profils, surtout.
C'est deux profils différents.
Mais deux buteurs.
Donc, Ronaldo... au moins, sur ce plan-là, tu peux les associer. Parce que l'un avec le Claude, il va falloir qu'un des deux accepte de jouer pour l'autre, entre guillemets. C'est pas simple. Parce que là, je pense qu'ils ont des égos. Parce qu'on parle de l'ego de Mbappé, mais je pense qu'Alonde, c'est pareil, hein, faut pas croire. Hein. C'est-à-dire qu'il est focus sur aussi ses performances. Mm-hmm.
Bon, c'est plus des solutions que des problèmes. Après, c'est aussi le travail des entraîneurs et des managers de savoir associer et trouver de la complémentarité. Lequel je préfère ?
Non, alors on sait qu'ils sont très différents dans leur style, même dans leur technique. Est-ce que justement ces deux joueurs, on dit duel ou duo, jouer ensemble peut-être pas, mais est-ce que comme Messi et Cristiano, le fait de jouer par exemple dans le même championnat, ça pourrait aussi faire un peu grandir leur aura et leur légende, comme ça a été le cas pour Messi et Cristiano si longtemps ?
Oui, c'est l'intérêt d'ailleurs même d'un championnat de pouvoir avoir les deux. Mais c'est
dans le même championnat de la Ligue des Champions. Ouais, vous allez me répondre, mais
non, mais comme ça, enfin, ce qui a fait aussi un peu le succès à un moment de la Liga, c'était le Classico, puis le match Ronaldo contre Messi. Par exemple, la Liga, si le Real arrive à attirer Mbappé, bon, on connaît la situation désastreuse du FC Barcelone, mais en faisant un peu de
science-fiction.
Ouais, ou science-fiction, mais du moins en essayant de trouver des solutions. Des solutions. Si vous arrivez à vendre certains joueurs, vous faites venir Haaland au FC Barcelone. Bon, si Messi s'en va, si
Les deux dans le même championnat.
Voilà, si vous transférez Coutinho, par exemple, vous pouvez trouver la surface financière pour arriver à le faire venir. Oui, ça serait extraordinaire. Et puis ça recréerait une histoire. Parce que c'est quoi le football ? C'est un feuilleton, c'est des émotions, c'est des personnages. Et en plus, là, il y a un vrai truc, en fait. Bon, il y a Mbappé qui est finalement, il a le côté moderne, qui correspond au monde d'aujourd'hui pour tas de raisons. Il est hyper bankable. Et de l'autre côté, bah, je vais faire une métaphore. Bah, je sais pas si elle va être appréciée ou pas, mais t'as l'impression d'être un peu dans Rocky IV avec Haaland, qui est plus une beauté froide quelque part. Je dis pas qu'il a pas d'émotion, il a pas de sentiment, mais c'est un autre registre, c'est un autre personnage, et on peut les opposer dans l'imaginaire. Ouais. Et voilà.
Enfin, faire un match dans le match.
Ouais.
Marc.
Je pense qu'on a vraiment l'impression par rapport à Haaland qu'il est capable de tirer l'équipe vers le haut déjà par rapport à son jeune âge et ce qu'il est capable de faire. On le voit hier soir, 89e, il rate une action, il revient au sprint, il fait une faute un petit peu stupide, il prend un jaune, mais 90e, c'est-à-dire qu'il, voilà, ça ne s'arrête pas. Mbappé, bon, il marque le premier but, regardez-moi, vous me contemplez, je suis là. Il y en a un qui est un petit peu plus besogneux avec le cœur et plus généreux. Mbappé va être le soliste qui est sur l'accélération, je pousse, j'accélère, vous ne me voyez plus. Mais entre les deux, choisir aujourd'hui, c'est très difficile, mais vous en avez un qui va vous faire jouer l'équipe. Alors, on va parler du Mbappé qui a joué face à Barcelone. Il joue en équipe, ça m'intéresse. Par contre, le Mbappé que l'on peut voir des fois en Ligue 1, qui fait des râteaux roulettes, qui veut jouer avec son ami Ney, c'est pour Ney, je lui passe à Ney. Ça, c'est pas le football. Haaland, qu'on le veuille ou non, ça joue. Il calcule rien. C'est je joue pour les autres, je m'arrache pour les autres.
Oui, mais la petite différence, c'est parce que Mbappé n'est pas la seule star du PSG. Enfin, même pas la star. La star, c'est Neymar.
Il est la star, non.
Et la deuxième, c'est lui. Et ça veut dire, d'une certaine manière, et ça va être d'ailleurs le problème de Pochettino, parce que ça m'a fait un petit peu sourire, tous les commentaires. Il a trouvé quelque chose, c'est pas qu'il a trouvé. C'est qu'il lui manquait des gens. Donc il a fait en fonction des gens qui lui manquaient. Comme le meilleur match de tout rôle ou de
chez Pitangui, c'était au Real.
C'est sans ses stars.
Et là, tout le monde a été au parc.
Exactement. Donc ça veut dire qu'à un moment, la difficulté de l'entraîneur, c'est de pouvoir faire jouer ses joueurs ensemble. Et le problème de Mbappé, c'est qu'ils sont dans une sorte d'amitié, de confrontation avec Neymar pour celui qui sera le meilleur, le plus beau geste.
D'ailleurs, il faudra surveiller le retour de Neymar, là, maintenant. Ça va être aussi le travail de Pochettino.
Exactement.
Parce que Neymar avait repris la lumière. À un moment, c'est des rapports de force qui évoluent.
Ouais,
Neymar
balance.
Arrive, bon, il explose tout. Mais il est un peu moins sérieux. Mbappé reprend le leadership, mais il assume pas jusqu'au bout.
Ça a toujours été quand même Neymar le leader.
Non, mais à un moment, Neymar, avec ses blessures et tout, il avait disparu de la circulation. Mais quand il est sur le terrain, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur. Là, Neymar reprend la lumière, il se reblesse, c'est Mbappé qui repasse devant. Quid du prochain épisode ? J'aimerais savoir, moi, parce que Neymar, il peut faire des.
Alors qu'à Londres, il n'y a pas ce problème-là, dans le duel à Londres. À Londres, c'est à Londres.
Tu le mets tout le temps.
C'est à Londres, il est à Dortmund, on sait que c'est lui.
Et puis le ballon d'or, là, peut-être que Neymar, il pensait que c'était pour lui, là. Puis là, il vient de se rendre compte que l'autre, il a collé un triplé. Non, mais ça a l'air de rien, ce que je dis.
Mais Lewandowski, alors, il est où Lewandowski dans ces cas-là? Parce que Lewandowski, il faut penser aussi à lui.
Non, mais si ça gagne la Ligue des Champions au bout, je veux dire. Après, le talent de Lewandowski et celui de Neymar, même si je suis d'accord avec toi que Lewandowski, il n'est peut-être pas considéré comme il devrait l'être, il y a un moment, les gens ils vont être dans une note artistique et Neymar, il est injouable.
En un mot ou en une phrase plutôt, chacun de vous, quels enseignements de cette première soirée des huitièmes de finale?
Bah que on parle pas beaucoup de Liverpool, mais je pense qu'ils ont fait un bon coup du côté de Leipzig, si c'était en Hongrie. Et je pense qu'il va falloir se méfier des Reds en Ligue des Champions, parce qu'on sait qu'en en première ligue, c'est quasiment terminé pour le titre. Donc, le bon résultat de Liverpool.
Marc Libra.
L'OM, on n'en parle plus, donc ça c'est bon, c'est fait, ça c'est fait. J'attends de voir City, parce que moi j'ai commenté City. S'ils sont capables de faire ce qu'ils sont en train de faire en première ligue, en Ligue des Champions, c'est peut-être leur saison.
Eh oui, parce que ce sera la semaine prochaine, hein, bien sûr qu'il y a une deuxième semaine.
Il faudra que là, aligne les meilleurs joueurs quand il y aura des matchs coupés. Parce que la dernière fois, laisser Silva, Mahrez et compagnie sur le banc,
c'était extraordinaire.
Quand
on voit ce que Mahrez fait en championnat.
Surtout hier soir, encore du pied gauche, enroulé, magnifique.
Extraordinaire. Et vous, Hervé, parce qu'il y a encore une, je dis à nos auditeurs, encore une semaine de Ligue des Champions, seulement 8 équipes ont joué.
Alors moi, je serais moins sous le charme de Liverpool, parce que je pense que Leipzig, c'est faible. Enfin, faible. Ce sont des équipes.
Ils sont faibles, ils ont baladé le PSG.
Ah oui. Ce que j'allais dire par là, c'est que ce sont des équipes totalement déséquilibrées. Donc, pour les déséquilibres, quand vous avez des joueurs de niveau de Mané et de Salah, à tout moment, vous pouvez faire les différences. C'est ce qui s'est passé comme Paris.
Un coup attaquant. C'est hier soir. Surprenant.
Exactement. C'est ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain aussi à Leipzig. C'est qu'on a l'impression qu'ils jouent super bien, puis au final, ils n'ont pas mis un but. J'en resterai quand même, j'en resterai à nos amis Mbappé et Haaland. Bon. Duel à distance, magnifique, on en a parlé. Bon. Mais ça restera quand même pour moi, ce qui s'est passé cette semaine, un truc hors norme, l'un qui répond à l'autre.
En attendant les matchs retour, il y aura donc des matchs la semaine prochaine. Et nous, Marc, on y va?
Oui, on y est,
on part à Marseille,
c'est
TGV.
Parti.
Pour Payet, pour Enrique, la vitesse de Luis Enrique, c'est super intéressant là. Luis Enrique pour Raoué. Mais quelle action, messieurs dames, conclue par Saïf Edine Raoué.
Le Vélodrome sonnait creux, mais la joie de l'OM aurait peut-être pu envahir les tribunes hier soir, car les Marseillais ont enfin gagné en championnat. La dernière victoire datait du 6 janvier dernier et c'était face à Montpellier. En l'emportant 3-2 hier face à Nice, l'équipe s'est donc un peu rassurée, une équipe rénovée avec trois titulaires inattendus. Au départ, il y avait Luis Enrique, le Brésilien, Dieng, le Sénégalais, et puis, eh bien, Kawi, le Tunisien, auteur d'un doublé, Saïf Edine, qui n'en revenait pas après la rencontre.
J'ai la chance d'avoir eu la confiance du coach. Et ça change tout un joueur. Et ce soir, je l'ai rendu sur le terrain. Et franchement, depuis le temps que j'attendais ça dans ce club-là, franchement, c'est mon club de cœur depuis tout petit. Collectivement, on a fait un gros match. Je pense que ça va être notre match référence pour la suite. C'est génial.
On va revenir sur Kawi avec vous, Nabil. Mais Marc, est-ce que tout va mieux à l'OM?
Non, pas du tout. Ah non, non, ça, là, le feu, ça couvre là.
C'est une mise en boîte.
Oui, non, mais sur le terrain, c'est bien. Voilà, prendre 3 points, c'est le plus important. Parce que il tremble quand même jusqu'à la fin. C'est fébrile, bah oui, le coup franc. On va dire qu'ils s'en sortent bien. Et on va dire, dans ce qui se passe actuellement à Marseille, de prendre 3 points aujourd'hui, ça permet de respirer un petit peu.
Ils sont sixième du championnat.
Ouais, avec ce fameux match en retard. Vous savez, ils ont joué mercredi soir comme Ligue des Champions. Ouais. C'est un signe.
Finalement, c'est un signe. C'est fort possible.
Il suffira d'un signe, comme disait quelqu'un.
Il suffira d'un signe.
C'est pour ça. C'était le petit parallèle.
Matin. Mais bon, il y a quand même, disons, sans Villas-Boas, c'est pas non plus le creux total.
Ah, c'est-à-dire que vous avez vos joueurs stars qui sont sur le banc. Alors Payet a joué hier soir, mais comme il n'a pas joué avec Thauvin, donc Thauvin est sur le banc. Enfin, on va dire que c'est très très bien. Le jeune Kawi qui joue, le petit Dieng devant qui était rentré face à Auxerre et qui a marqué son premier but.
Le petit brésilien.
Mais ce qui est très important, c'est de dire que à ce moment-là, Kawi, je suis désolé, je le connais pas, on le voit apparaître, mais voilà, c'est juste la confiance du coach. Il a dit, mon garçon, je compte sur toi. Et ben voilà ce qu'il est capable de donner un garçon qui n'est pas forcément une star. On est d'accord. Nabil nous en parlera tout à l'heure. Mais c'est juste que voilà, je veux lui donner parce que Marseille a besoin de ce genre de joueur aujourd'hui. On n'a pas besoin de grands noms, on n'a pas besoin de Thauvin qui n'a rien à faire, de Payet qui n'a rien à faire. C'est juste un joueur qui, entre guillemets, aime le club. Je veux pas être vulgaire, et voilà, il aime le club. Et aujourd'hui, ils ont juste besoin de ça. Et peut-être que si on retrouve des joueurs avec cet état d'esprit, comme le petit Dien qui rentre, qui ne se pose pas de questions, passe, voilà. Et puis, à noter que vous avez quand même un joueur qui s'appelle Alvaro, qui tient la baraque, qui n'a peur de rien, et qui aujourd'hui est très important.
Et qui a marqué le premier but.
Oui, mais il est très important, il lâche pas, ou il a alors subi des agressions ou pas, on s'en fout. En tout cas, lui, il répond présent, et il va aider tous ces gamins-là qui arrivent, parce que Kawhi Kalvino, c'est un jeune joueur, et le jeune Dieng devant, attaquant de l'OM, dans une saison comme ça, le bordel dehors, le bordel dans la ville. Tiens, tu vas devant, petit jeune neuf, numéro 9, attaquant de l'OM. C'est très bien pour lui, je suis très heureux, mais il faut que ça continue.
Nabil, ce Kawhi, alors jeune, mais il a quand même 25 ans.
Tout à fait.
Et il est venu à l'OM, en fait, international tunisien.
Oui, il a joué
avec la Tunisie. Il est venu à l'OM depuis plusieurs saisons, mais en fait, on le faisait pas jouer. Oui, il avait été deux fois titulaire.
Oui, alors il a souffert de plusieurs choses. Déjà, peu de considération, ça c'est une certitude. C'est vrai que Nasser Larguette, comme l'a dit à juste titre, Marc lui a donné une titularisation. Ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. C'est un joueur qui aurait pu certainement rendre des services depuis très longtemps à l'Olympique de Marseille. Après, il a été piégé par son poste et par les systèmes de jeu, les 4-3-3 avec des ailiers, bah, du coup vous avez Payet d'un côté, Thauvin de l'autre, lui c'est plus un 8, un 10, pour le coup le système de jeu ne l'a pas avantagé. Ensuite André Villas-Boas l'a fait un petit peu poireauter pour dire les choses, en lui promettant de le faire jouer, en lui disant c'est super, t'es sérieux, etc., etc. Mais finalement il l'a placardisé et il l'a utilisé à contre-emploi comme latéral gauche de substitution à Nagatomo ou à Mavi, qui n'est absolument pas son poste, puisque c'est un joueur plutôt offensif. Après, voilà, c'est aussi Nasser Larguette.
Donc, c'est une belle histoire, un peu.
C'est une belle histoire, mais il ne faut pas que ça s'arrête là.
Ouais,
c'est-à-dire
ça.
Que
oui, ça c'est un match. Ouais.
Voilà, il y a de la fraîcheur, il y a de la prise de risque. Il faut que ce joueur-là, je ne sais pas s'il va devenir titulaire, mais que, de temps en temps, il ait une demi-heure, qu'il rentre, qu'il apporte ce qu'il peut apporter. Maintenant, vous dire qu'il va changer l'OM, non.
Non, c'était pas le sens de ma question. Ah,
mais il est en fin de contrat à la fin de saison et c'est un joueur qui peut ensuite espérer un autre contrat ailleurs.
Hervé, justement, alors on n'a pas le temps d'entendre Nasser Larguette, mais quand on l'écoute quand même, est-ce que c'est sa fonction de formateur, l'œil qu'il a finalement sur le groupe, sur l'ensemble des joueurs et pas seulement sur le 11, sur les stars, est-ce qu'il insuffle quelque chose quand même de nouveau, Nasser Larguette qui vient, on le rappelle, du centre de formation et c'est la première fois qu'il est entraîneur d'une équipe de première division.
Moi, je trouve qu'il insuffle son calme. On sent quelqu'un de très posé, qui a confiance en ses joueurs. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de public. Alors, c'est tout bête, mais si vous mettez Kawhi, Dieng, quand il n'y a personne dans le stade, ce n'est pas tout à fait la même chose.
On peut même mettre Héro dans le stade.
Oui, on peut même mettre Héro et il s'en sortira sans aucun souci.
Mais il n'y est pas.
Hein, donc,
il n'y est pas, je vois.
Donc, et ça, c'était important. Et lui, comme c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de formation, et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de parler aux joueurs, de savoir exactement leur dire comment progresser. Peut-être à Kawhi lui expliquer deux, trois petites choses qu'il doit faire. À Dieng, notamment, jeune Sénégalais qui vient d'arriver. C'est vrai qu'il n'a pas peur de les lancer parce que pour lui, de toute façon, il sait qu'il est là pour un intérim. Oui. Ça durera le temps que ça durera.
Il n'a pas d'ambition.
Et donc, moi, je trouve qu'il a une forme de tranquillité, de calme, qui rejaillit sur son équipe.
Ouais. Voilà. Je peux peut-être lui reprocher ce calme parce que c'est souvent flashé à Zianziani qui monte au créneau pour gueuler sur les joueurs.
Bah non, mais c'est intelligent de sa part.
Ouais, non, non, non.
Il laisse les autres.
Non, non, mais c'est vrai que tu vois, sur le banc, t'as souvent, quand il sort de sa zone, lui, c'est toujours très posé. Et puis après, je pense que vraiment, il n'en a rien à faire. Il attend rien de l'OM. Il retrouvera ses gamins parce qu'il dit, moi, je veux retourner au centre de formation. Et lors de son introduction, enfin, quand il avait été mis en avant, vous avez dit, il faut qu'il reste. Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va changer?
C'est pas qu'il en a rien à faire.
Non, mais quand j'ai rien à faire, c'est qu'il n'a aucune ambition de se dire, voilà, moi, je vais briller, et moi, je veux être ceci. Il y a tellement d'anciens joueurs, d'entraîneurs qui cherchent un poste. Lui, on lui donne un poste à l'OM.
Attends,
et il dit, vous savez quoi, là?
Alors, il ne faut pas être gagné par l'ambition après. Parce que ça peut arriver, tu sais.
Mais
au fil des matchs.
Mais l'ambition, elle est déjà là.
Moi, je le connais un peu. C'est quelqu'un de très bien.
Regarde le jeune Kawhi ou Dieng. Est-ce que s'il y a Villas-Boas, ils apparaissent? Non. Eh ben, non. Il a déjà ce pari-là, il est réussi. Donc ce Minot-là. Exactement. Et ce Minot, c'est grâce à lui.
Et parce que lui, il n'est pas les pieds et mains liés avec ses relations avec certains joueurs du club. Il est tranquille.
Eh bien voilà. Et c'est la fin déjà de Radio Foot International.
Oh bah c'est allé vite, dites donc.
Comme d'habitude.
On dirait du Haaland et du Mbappé.
Merci. Merci, messieurs, d'avoir été dans l'émission aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour le Café des Sports.
Ce samedi sur RFI.
Alors, on dit quoi ?